tous, lundi 1er août, mon nom est Chantal Lavoie, bienvenue à Aime l'été. Nous entamons aujourd'hui le mois d'août et nous sommes déjà à mi-parcours de notre émission estivale. Aujourd'hui, cette semaine, nous allons souligner l'événement Fierté Montréal, qui est le plus grand rassemblement de la diversité à travers toute la francophonie, un de ces rassemblements de la fierté les plus courus à travers le monde. Dans le cadre de sa programmation, on s'intéresse notamment à une exposition à voir au musée McCord. Également, on s'intéresse encore à notre fleuve à travers une autre exposition, et la qualité de l'eau de nos lacs est toujours une source de préoccupation, de même que la protection de nos bandes riveraines. On en discute avec notre chroniqueur environnement. Voici votre émission « Aime l'été ». Et aujourd'hui, toute la semaine, on va mettre de l'avant des artistes, musiciens et chanteurs de la communauté LGBTQ+. Je devrais même dire 2SLGBTQIA+, pour être plus précise. Alors, c'est l'événement Fierté Montréal qui s'installe à Montréal. On va discuter aujourd'hui avec J.J. Levine à propos de son exposition présentée au Musée McCord. On va s'intéresser de nouveau au milieu marin et au fleuve Saint-Laurent à travers Exploramer, qui est un complexe d'activités situé à mi-chemin entre Rimouski et Gaspé. Aussi, qui se souvient des algues bleues? On en jase avec notre chroniqueur environnement Jean Paquin. Mais d'abord, dans les prochaines minutes, j'accueille le directeur général de Fierté Montréal, Simon Gamache. Voilà une prochaine heure bien remplie à Aime l'été.
It's a pleasure to meet you, my friend. Come take a seat at my desk. I gotta tell you, kid, the whole team is more than impressed. Your melody soar and all of your choruses shine. The lyrics are sound and your voice is fundamentally fine. But face it, if you wanna make it onto radio, kid, you gotta do as I say. Change all the hymns into hers, and just don't tell the world that you're happy to help. Take my card, please think about what I've said. But this is an industry where people make money, so your art has to sell. And you should never seek to challenge an audience, they buy what they're told, and we never get it wrong. Go write us a non-offensive, tasteful, conventional song. Town, kid, I'm gonna make you a star. You got the fire in your gut and everything that you need to go far. You're a talented guy, you can shake Hollywood to the ground. And with us on your side, plus your looks, you're gonna conquer this town. But face it, if you wanna break into this business, kid, you gotta play the part. And you'll never play a leader man if you let onto your fans the truth about who you are. Just remember that girls like boys and boys like girls, and that's the way it has been forever. Girls like boys and boys like girls, and that's the way it will be forever. You're never gonna get it. The kids already know. Some girls like girls, some boys got a boyfriend. I like guys and they like me. We hold hands, make out, and do all the things that lovers do. Some girls like girls, some boys got a boyfriend. I like guys and they like me. We hold hands, make out, and do all the things that lovers do.
Girls like boys and boys like girls, and that's the way it
Matt Fischel, chanteur, auteur, compositeur et producteur britannique. Il est propriétaire de son propre label, ce qui lui permet de disposer d'une plus grande liberté de contenu. Il a étudié la musique au Liverpool Institute pour les arts de la scène de Paul McCartney au début des années 2000, avant de déménager à Londres et de produire plusieurs albums. C'est la semaine de la fierté, alors nous allons accorder une place particulière aux chansons et artistes LGBTQ+, au cours des prochains jours. Alors, c'est la semaine, effectivement, de la Fierté Montréal, une édition très étoffée. On va en parler avec Simon Gamache, qui est maintenant le directeur général de Fierté Montréal. Voilà, bonjour.
Bonjour, Chantal.
Bon, ça va bien?
Ça va très bien.
Alors, j'imagine fébrile à l'approche, avec cet événement qui s'en vient, qui commence du côté de Montréal.
Aujourd'hui.
Exactement, tout
Et
à fait.
Oui, absolument.
Alors,
on est fébrile.
Oui, continuez donc. Oui, sur votre lancée.
Oui, on est fébrile. Oui. Ça fait des mois qu'on se prépare pour ça. Donc, on est mobilisé, on a une équipe mobilisée. Là. Peut-être les gens ne sont pas conscients, mais toutes les personnes ensemble, mais tout le monde ensemble, nos équipes permanentes, temporaires, bénévoles, c'est plus de 500 personnes qui travaillent sur Fierté Montréal en ce moment. Donc, on commence aujourd'hui, on livre ça pour les communautés et pour tout le monde, pour tous nos alliés.
C'est ça. Parce qu'en fait, je disais, qui va commencer, mais ça commence aujourd'hui, c'est qu'en fait, il y a cette 24e conférence internationale sur le sida qui se tient depuis quelques jours, jusqu'à demain. Et en marge de ça aussi, il y avait un spectacle qui était présenté de Dave Saint-Pierre, le chorégraphe Dave Saint-Pierre, qui présentait son œuvre Rapture. Alors, ça fait partie aussi de votre programmation, bien entendu.
Absolument. Bien, c'est la conférence sur le sida, donc c'est un grand, grand événement. Donc, il y a plus de 6000 chercheurs, chercheuses qui sont à Montréal de partout dans le monde. Ça faisait depuis la dernière fois qu'on avait eu ça à Montréal, c'est en 89. Donc, très heureux que ça soit de retour à Montréal. Et nous, la Fierté Montréal, c'est sûr qu'une grande partie de nos communautés a été affectée par le VIH-sida. Donc, on s'est dit, dès l'automne, on s'est dit, on veut absolument développer une programmation en parallèle, une programmation militante de sensibilisation, de commémoration. Et bien, l'œuvre maîtresse, c'est cette œuvre-là dont vous venez de mentionner, qu'on a commandé à Dave Saint-Pierre, Rapture, là, qui a commencé la semaine dernière. Une œuvre très forte, une œuvre poignante, c'est pas une œuvre facile, une nouvelle chorégraphie. Et donc, qu'on fait au monastère, au centre-ville de Montréal, et puis continue jusqu'au 6 août.
C'est ça, donc, offert aux congressistes, mais bien sûr à tout le monde aussi. Alors, vraiment une œuvre majeure. On en reparlera parce que de toute façon, demain, on va s'attaquer aussi à la programmation. Mais avec vous, ce que je veux discuter aussi de votre engagement, parce que ça fait bientôt un an que vous êtes à la tête de Fierté Montréal?
Oui, absolument. Donc, depuis septembre, puis vous et moi, Chantal, on se connaît bien. On s'est connus dans un autre monde quand j'étais dans le monde culturel. Et
effectivement, tout à fait. Oui, je sais, je vous reconnais bien. Oui. Alors, c'est ça. Donc, vraiment, vous êtes... d'abord, vous étiez un gestionnaire d'expérience. Vous avez travaillé depuis, une bonne quinzaine d'années, comme il faut, là, dans des ONBL, bien sûr, de toute taille, d'ailleurs. Et puis, vous aviez, bien sûr, vous étiez bien outillé, là, pour faire face à ces enjeux très particuliers de Fierté Montréal. En fait, c'est un gros défi, bien sûr.
C'est un gros défi. C'est vraiment très différent. Puis, je dirais qu'une chose qui est vraiment... que j'adore dans ce travail-là, au-delà vraiment de la festivalité. On a d'abord un festival, puis aussi on a un défilé. Mais moi, ce que j'adore dans le travail, c'est le travail qu'on fait avec les groupes communautaires. Fierté Montréal, oui, c'est la grosse machine qui est là, qui a des ressources. Mais au Québec, il y a plus de 150 organismes communautaires de LGBTQIA+, qui travaillent sur le terrain. Vraiment, avec toutes les communautés qui travaillent en santé sexuelle, en santé mentale, en mobilisation, des activistes et tout ça, donc qui sont là. Et nous, ce qu'on fait, c'est on va faire du financement pour l'organisation de certaines activités, pour amplifier l'action de ces organisations-là. Donc, vous voyez, cette année, on a financé, je crois, plus de 40 projets, surtout à Montréal, mais un peu partout au Québec, en Abitibi, au Saguenay, en Estrie, en Mauricie. Donc, vraiment, pour que tous ces organismes-là qui font un travail exceptionnel puissent aller plus loin dans leur travail. Ça, c'est vraiment une grande satisfaction pour moi, mais pour toute l'équipe de Fierté Montréal.
C'est ça. Donc, c'est ça, parce que sans les revendications des ressources, au fond, Fierté Montréal n'aurait pas sa raison d'être. Il faut arrimer tout ça, là, ensemble.
Absolument. La base du mouvement des fiertés, c'est ça. C'est la revendication. À Montréal, la première marche a lieu en 79. C'est quelques personnes qui ont marché dans la rue. Et voilà, on se retrouve 43 ans plus tard et on a un festival de classe mondiale et où il y a un énorme défilé. Et ça part de revendications.
Exactement.
Montréal aussi porte des revendications.
Alors, il y a eu la pandémie, évidemment, vous êtes arrivé dans le décor. Là, il fallait aussi rebâtir l'équipe. Hein. Ben, il y avait quand même une équipe très solide, mais certains bon, n'étaient plus là. Et puis, bon, aussi, bon, faire un travail au niveau de la gouvernance. Évidemment, un gros travail que vous avez dû faire, gérer le changement, tout ça. Et quand on dit changement, ben, c'est qu'en fait, ça grossit constamment. Et donc, vous avez dû aussi relocaliser en fait, les activités comme telles du côté du parc olympique, de l'esplanade du parc olympique.
Oui, absolument. Donc, le site principal, on est au parc olympique cette année. En fait, ce qui s'est passé, Fierté-Morin est en croissance continue, puis il y aura une explosion de 2007 à 2019. Donc, on avait déménagé à ce moment-là au parc des Faubourgs. Les gens sont de Montréal, c'est à la sortie du pont Jacques-Cartier sur l'île. Et bon, il y avait des événements pour lesquels on ne peut plus rentrer toutes les personnes qui voulaient rentrer. Donc, il y avait des enjeux de sécurité autant à l'intérieur de la barricade qu'à l'extérieur de la barricade, autant même pour les enjeux de cohabitation. Donc, on devait trouver un nouveau lieu. On a fait une évaluation. Finalement, on a décidé de porter notre dévolu sur le parc olympique. C'est sûr que on est un festival différent. On est pareil pour les communautés. Donc, nos communautés doivent se sentir en sécurité. Donc, cet espace-là nous permettait de donner une grande flexibilité par rapport à l'aménagement. Donc, c'est pour ça qu'on est là en partie. Mais aussi, il y a tout un aspect de développement durable qui est très intéressant. Le métro est là. Il y aura le SRB P9 qui va atterrir là aussi bientôt. Fait que c'est un endroit qui est quand même très facile d'accès.
D'accès, exactement. Et puis donc, c'est sûr que les gens du village, bon, étaient un peu déçus, mais il y a quand même plein d'activités qui vont avoir lieu dans le village comme tel.
Oui. Ah oui, ça grouille, je vous parle, je suis juste à côté, dans un parc à côté du village. Donc oui, non, absolument, on a beaucoup d'activités qui sont planifiées, on commence là dès ce soir, mais aussi une chose qu'on fait depuis longtemps, c'est les journées communautaires. Cette année, avant, on faisait seulement une journée, maintenant c'est deux journées communautaires. Puis les personnes qui écoutent ne connaissent pas, c'est un peu comme une foire dans le village qu'on fait cette année le 5 puis le 6 août, où il y a des kiosques, et c'est les groupes communautaires qui sont là, qui présentent leur travail, et c'est vraiment exceptionnel. C'est vrai que le cœur battant de Fierté-Montréal. C'est l'occasion de rencontrer tout le monde. On encourage vraiment les gens à venir et c'est une belle manière d'occuper le village avec les groupes communautaires.
C'est ça. 2027, hein, ce sera une grosse année, 20e anniversaire de Fierté-Montréal. Et puis, bon, vous auriez bien aimé avoir la World Pride en 2023, mais c'est Sydney finalement qui l'a eu. Et peut-être 2027?
Ah, vous lisez dans mes pensées. C'est ça qu'on y pense. On y pense. Penser à une World Pride, c'est un événement majeur.
C'est ça.
On travaille avec eux présentement parce que on va faire la promotion croisée. On fait la promotion de World Pride à Sydney. La World Pride à Sydney va faire la promotion de Fierté Montréal. On va travailler ensemble. C'est ça. Donc, on y pense. Je vous dirais, c'est pour pouvoir se décider rapidement si on veut faire on veut déposer un cahier de candidature, mais évidemment, ça ne se fait pas seul. Il faut travailler avec nos partenaires, travailler avec la Ville de Montréal, avec Tourisme Montréal, avec Destination Canada. Il y a clairement un intérêt, puis regardez, je ne vous cacherai pas le fait qu'on émerge au parc olympique. Ça ouvre, c'est un champ des possibles incroyable.
Ça ouvre des perspectives nouvelles.
c'est ça, exactement. Ce n'est pas un choix innocent d'aller au parc olympique.
C'est ça. Donc, travailler avec le communautaire, avec les gens de Tourisme Montréal aussi, enfin, c'est quelque chose qui est devenu très gros, Fierté Montréal, et puis il y a une superbe programmation, il y a plein de choses, et évidemment ce défilé aussi très important, ce qui fait que on en parlera nous demain, assurément, on va continuer à en parler toute la semaine, quoi.
Absolument, on est très heureux que vous nous accueillez toute la semaine.
En tout cas, alors Simon Gamache, bravo pour le travail qui a été fait jusqu'ici. Là, vous avez quand même beaucoup travaillé depuis ces derniers mois. Je sais que ça a été un travail énorme. Alors, continuez votre beau travail et puis on va suivre les activités tout au long de la semaine.
Merci Chantal et bonne fierté à tout le monde.
Merci Simon. Au revoir.
Au revoir.
Bye bye.
Si seulement elle savait comment tu la regardais, elle serait effrayée. Si seulement elle savait comment tu l'imaginais, elle pourrait t'abîmer. Mais laisse le temps, il pourrait vous donner une chance de vous retrouver. Il lui faudra du temps, c'est sûr, pour oublier ses préjugés. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir, même si de reine c'est pas trop accepté. accepter. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Toi les rois tu t'en fous, c'est pas ce qui te plaît. Si seulement elle savait comment tu l'envisageais. Même si t'es une fille. Si seulement elle savait comment tu pourrais l'aimer tellement plus que lui. Tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Même si de reine c'est pas trop accepté. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Toi les rois tu t'en fous, c'est pas ce qui te plaît. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir.
C'était « Ta reine » de la chanteuse belge Angèle, parue sur ce premier album sorti en 2018. Chanson écrite et coproduite par Angèle et Tristan Salvati. Chanson où elle évoque, cette chanson évoque la bisexualité de la chanteuse. En 2019, Angèle, qui dévoilait son clip « Balance ton quoi », faisant ainsi référence au hashtag de dénonciation de harcèlement sexuel et sexiste « Balance ton porc » dans la foulée du mouvement « MeToo ». Alors, Angèle, qui était en tournée en France cet été, ça se poursuit cet automne, et nous allons l'accueillir au Centre Bell le 29 avril prochain, le 29 avril 2023. Alors, on essaie de joindre M. J.J. Levine, en fait. J.J. Levine, oui, qui, en fait, est exposé au Musée McCord présentement, son exposition Photographie queer, qui nous invite à découvrir des œuvres vraiment sélectionnées, tirées de 3 séries de portraits. Pour son travail, J.J. Levine plutôt interroge la représentation des rôles du genre binaire traditionnel au moyen de photographies qui mettent en scène comme ça des sujets queer. Alors, on y reviendra parce que, bon, tout au long de la semaine, vous savez, on parle des activités en marge de Fierté Montréal. Alors, demain, justement, on en parlera de la programmation. On a justement parlé tout à l'heure avec Simon Gamache, directeur général de Fierté Montréal, cet événement qui, évidemment, réunit plein de choses cette semaine, dont ce fameux défilé très populaire. Bon, on va accueillir aussi un peu plus tard notre chroniqueur environnement, Jean Paquin, oui, qui sera des nôtres aujourd'hui. Et puis, parlant d'environnement et de changement climatique, c'est parce qu'en fait, récemment, je parlais je faisais le lien finalement entre santé mentale et l'été. Et justement, il y avait un article, je suis tombée là-dessus, un article dans les journaux, est-ce que c'est dans la presse ou dans un autre journal? En tout cas, on parlait des conséquences des changements climatiques qui étaient nombreuses et parfois catastrophiques, notamment sur le sommeil et oui, sur la santé humaine. Et puis justement, on disait dans une étude, qu'on perd déjà 44 heures de sommeil chaque année en raison des températures nocturnes supérieures supérieure à la moyenne, c'est l'équivalent de 11 nuits avec moins de 7 heures de sommeil, ça. Alors, c'est ce qui est, en fait, le minimum généralement reconnu. Et puis, on a analysé comme ça les données de 7 millions de nuits chez 47 000 personnes dans 68 pays. Alors, grosse étude quand même. Alors ça s'est passé entre 2015 et 2017. Les participants qui portaient comme ça un bracelet au poignet connecté à un téléphone portable permettant de recueillir de nombreuses données physiologiques. Et bon, avec ça, on avait les données météo qui ont été prises en compte. La recherche menée principalement par des chercheurs de l'Université de Copenhague au Danemark a été publiée en avril dernier. Et donc, on apprend plein de choses intéressantes. Et puis, notamment aussi que, en fait, la recherche rappelait que les femmes sont généralement plus affectées que les hommes par la chaleur. Voilà. Et puis, c'est ça, évidemment, les personnes, l'étude constatait également que la chaleur nocturne affecte deux fois plus les personnes âgées de 65 ans et plus qu'un adulte dans la quarantaine. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir que, oui, effectivement, il y a des conséquences à ces changements climatiques et notamment sur la santé, sur aussi nos performances cognitives et tous les effets sur le système immunitaire et cardiovasculaire. Alors, on perd effectivement des nuits de sommeil importantes en raison des changements climatiques et puis de l'augmentation effectivement du nombre de nuits, en fait de jours avec des températures très élevées. Alors, une petite pause musicale et je vous reviens tout de suite après.
Vous écoutez Aime l'été.
Deuxième demi-heure de l'émission Aime l'été, lundi 1er août. Et oui, on entame le mois d'août, n'est-ce pas? Et on a eu quand même un beau mois de juillet, faut le dire. Et puis bon, on arrive aussi, nous, à mi-parcours. Alors, je tiens quand même à souligner le travail remarquable de nos recherchistes, en fait, de toute l'équipe. Je pense à Camille Cusset, Méliane Fafard à la recherche, Claire Guérin, bien sûr, et Catherine Bourderon, également à la réalisation, à la mise en onde, Nicolas Wartmann et Mathieu Tessier, qui est là aujourd'hui et qui sera là toute la semaine. Alors, merci beaucoup de travailler si bien. Et puis, voilà. Alors, on fait ce qu'on peut. Hein. Parfois, on a, bien sûr, eu du mal à joindre J.J. Levine tout à l'heure pour l'exposition présentée au musée McCord. Alors, on y reviendra assurément. On va tenter de l'avoir un peu plus tard cette semaine hein, dans le cadre de Fierté Montréal. À venir, dans les prochaines minutes, on parle du complexe d'activités sur le milieu marin sur le Saint-Laurent Exploramer. Et oui, la mer à découvrir.
Endors-toi, ma storine, ferme tes jolis yeux, bercée par le vent, au large des îles bleues, d'étoile en étoile, on suivra le chemin jusqu'à la rosée du petit matin. Viens, on va faire un tour à travers la brume, là où les esprits dansent, au clair de lune et au soleil levant. Entre ciel et terre, on chantera tout bas la chanson de la mer. Je t'ai vu dans mon rêve, au pied du grand phare. C'était comme avant, avant le départ. Des châteaux de sable, des berceaux dans les arbres. Ne pleure pas, on se retrouvera. Viens, on va faire un tour à travers la brume, là où les esprits dansent, au clair de lune et au soleil levant. Entre ciel et terre, on chantera tout bas la chanson. Thank you.
C'était Nolwenn Leroy, chanteuse bretonne qui a participé à l'émission Star Academy en France. Et puis, elle participait à The Voice aussi. En fait, elle avait un mandat bien particulier de récupérer finalement les artistes qui n'étaient pas sélectionnés. Enfin bref, alors c'était la chanson tirée d'un film d'animation, Le chant de la mer, voilà. Alors, on va joindre de ce pas Aurélie Rivard qui va nous parler d'un lieu bien particulier entre Rimouski et Gaspé. Encore là, on voyage. Alors, bonjour Aurélie.
Bonjour.
Alors, on parle d'Exploramer. Et oui, effectivement,
oui.
En fait, c'est un complexe d'activités sur le milieu marin et sur le fleuve, entre autres, oui.
Exactement, vous l'avez bien dit, là, c'est vraiment un complexe d'activités. Exploramer n'est pas simplement un musée scientifique parce qu'on offre là, vraiment des activités autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Puis c'est vraiment très éducatif, là, autant sur la préservation que sur la connaissance là, du milieu marin, mais plus précisément du Saint-Laurent. Donc c'est ça, on offre en fait différentes activités à l'intérieur, donc au rez-de-chaussée en fait on a plusieurs aquariums, mm-hmm. Puis à l'intérieur en fait là on organise avec un animateur scientifique des visites guidées, donc ce qui permet là aux visiteurs d'en apprendre davantage. Puis on en fait à même un bassin plat, on organise aussi un bassin tactile, c'est une activité d'environ une trentaine de minutes.
Ouais.
Puis les gens sont invités là à manipuler des homards, des crabes, des bourgots. Super intéressant, les visiteurs adorent cette activité là, c'est une belle façon d'en apprendre davantage,
c'est
puis ça. Comment bien les manipuler, oui.
Des étoiles donc, de mer et puis le crabe
oui.
commun. En fait, donc c'est un ensemble de 5 bassins qui recrée finalement
oui.
En fait qui recrée des cuvettes d'eau présentes à marée basse. Alors, ce qu'on peut oui. voir finalement aussi à marée basse, c'est intéressant, ça?
Exactement, c'est tout à fait ça, là. Puis, il y a différents petits environnements dans ces cuvettes-là, justement. Puis, c'est vraiment très intéressant. Les gens apprécient énormément.
Ouais.
Puis, on explique notamment la chaîne alimentaire, comment ça se déroule. Donc, les gens apprécient en apprendre davantage sur ce sujet-là.
Oui. Dites donc, je suis intriguée. On nous dit qu'on peut flatter le concombre de mer. Le concombre de mer, c'est une créature qu'on ne connaît pas très bien.
Oui, en effet, là, c'est ça, le concombre de mer qui peut être manipulé par les gens. Donc, le concombre de mer, en fait, est très particulier. Là. Ça ressemble un peu... en fait, les gens aiment dire que ça ressemble à une roche. Là. Puis, en fait, ce qui est intéressant, lorsque c'est dans l'eau, là, ils vont vraiment déployer des petits tentacules. Là. C'est des petites tentacules collantes à laquelle ils vont utiliser là, pour capturer le plancton dans l'eau.
Mm-hmm.
Puis, eux, c'est particulier. En fait, ils vont vraiment comme licher les tentacules. Ils vont les rentrer dans leur bouche puis les licher là, pour s'alimenter des planctons. Donc, il y a une alimentation très particulière. Là. Ils sont vraiment très intéressants.
Ouais. Donc, en fait, là, d'abord, on doit dire aussi que c'est ouvert, hein, cette exposition, jusqu'en octobre. Alors, on a encore un peu de temps pour l'apprécier. Donc, ce complexe-là, ça a été créé à quel moment? Ça a été construit à quel moment?
Ça a été créé plus précisément, mon Dieu, c'est une excellente question. Oui, en 1995.
C'est ça, ça fait quand même un petit moment,
oui,
effectivement.
Exactement.
Mais bon, ça... quand même, ça, les expositions se sont développées au fil du temps. Et puis, justement, de sorte que là, il y a une exposition permanente quand même qui est un jardin sous la mer.
Oui, c'est ça. Donc, le jardin sous la mer, c'est nos aquariums qui risque d'être d'ailleurs renouvelé là, dans les prochaines années en lien avec nos nouveaux projets à venir. Mais on a des expositions aussi en haut là, du musée. En fait, on a deux grandes expositions, soit celle qui est Être d'exception, qui est notre plus récente.
Mm-hmm.
Puis elle se voit un peu, elle informe les gens sur les différentes adaptations des organismes. Donc, c'est super intéressant, notamment en lien avec les changements climatiques. Donc, comment les animaux survivent à ces changements-là, mais aussi à l'environnement du fleuve Saint-Laurent en général. Donc, c'est très
ça.
Intéressant. Oui.
Donc, c'est toujours en lien avec le fleuve, finalement. Hein? C'est ce qu'on retrouve
oui.
principalement
oui.
dans notre fleuve. Et puis, on se pose des questions parce qu'il y a la réalité, il y a la fiction. Bon, on dit, est-ce que la crevette nordique est vraiment hermaphrodite? Enfin, on répond à toutes ces questions-là.
Oui, Oui, vraiment. Puis le but, c'est vraiment de démystifier un peu ces concepts-là pour que les gens puissent comprendre davantage comment nos espèces ici peuvent survivre là, à cet environnement-là qui est très froid, qui devient même glacé durant l'hiver. Donc, comment les espèces survivent à ce type d'environnement-là, là, si on veut.
Ouais. Ce qui est particulier aussi, c'est que, bon, vous savez, on a une relation bien particulière avec les requins. Mais bon, il y a des requins aussi dans le fleuve.
Oui, exactement. Donc justement, c'est super intéressant. On a une exposition là qui s'appelle Exposition requin 1000 millions de morts. Puis à l'intérieur, on explique un peu, on démystifie les 7 espèces de requins, dont les 2 qui résident à l'année ici, soit l'aiguillon noir et le requin du Groenland. Puis on explique à quel point c'est une espèce qui est très importante au fleuve Saint-Laurent, une espèce dite parapluie. Donc sans elle, là, l'écosystème marin n'irait pas très bien. Donc c'est vraiment intéressant de démystifier un peu, puisque les gens en général ne connaissent pas les requins du Saint-Laurent ou même ne savent pas
mais
qu'il
non.
y en a. Ouais.
Eh bien, c'est ça. Donc, j'ai l'impression qu'il y en a qui vont avoir du mal à y mettre le petit orteil, là, si on sait qu'il y a des requins. Mais en fait, ils sont plutôt
exactement.
Inoffensifs. Hein? Bon.
Oui,
c'est ça. Maintenant, ben, on connaît nos fous de bassin, mais on en parle comme des sentinelles du Saint-Laurent.
Oui, exactement. Puis justement, dans l'exposition dont on fait les questions, on relate un petit peu les faits qui ont été étudiés lors d'une étude qui a été réalisée par l'Université du Québec à Rimouski. Puis leur but, en fait, c'était de mettre des petits émetteurs sur les fous de bassin afin de voir un petit peu où les bancs de poissons se situaient, puis en quelle quantité. Donc, c'était un petit peu de comprendre les mouvements là, des bancs de poissons. Puis nous, à la lumière de ces informations-là, on a développé là, une exposition qui permet aux gens de comprendre un peu comment ça fonctionne une étude scientifique, puis à quoi ça a mené ces résultats-là. Donc, c'est très intéressant.
Ah, c'est très complet quand même. C'est vraiment intéressant parce que là, on... toutes sortes d'angles différents. On a parlé beaucoup ces derniers temps, nous, du fleuve Saint-Laurent, mais on en parle toujours différemment. C'est vraiment chouette. Et puis, bon, on parle aussi de l'exposition Fourchette Bleue parce que, bon, ça, c'est un éco-guide pour les consommateurs, là, pour se démêler un petit peu au niveau des certifications et tout.
Exactement. Donc, Fourchette Bleue qui a été créée dans les dernières années. Puis Fourchette Bleue, c'est une certification là, qui va permettre, en fait, aux consommateurs, aux poissonniers, aux restaurateurs d'aller vraiment, tu sais, découvrir des poissons qui sont plus méconnus du Saint-Laurent pour justement là, avoir tu sais à consommer des poissons qui sont vraiment plus durables, qui sont vraiment une ressource qui est vraiment plus durable dans le Saint-Laurent. Donc voilà.
Ça. Il y a autre chose qui est fort, ça c'est fort intéressant, une activité de cueillette de poissons. Alors là, on chausse les bottes, les pantalons, tout ça, et on s'en va carrément les deux pieds dans l'eau, cueillir, enfin, littéralement des espèces de poissons.
Tout à fait. Donc, un animateur ou une animatrice scientifique va encadrer le groupe vers justement ce qu'on appelle un verveux, qui est vraiment comme un filet installé là, dans la zone du littoral. Puis en fait, là, on va y recueillir justement différents organismes. On peut trouver vraiment des crabes, des homards en grande quantité, plusieurs raies, des étoiles de mer, même vraiment diverses espèces, même des algues. Puis en fait, l'animateur va faire l'interprétation puisque les gens vont pouvoir comprendre comment ça fonctionne, pourquoi ces animaux-là ils vivent ici. Donc vraiment des informations très intéressantes puis très concrètes puisque les gens sont invités même à y toucher. Donc c'est très intéressant.
Ouais. Et puis on peut prendre le large aussi à bord d'un tout nouveau navire.
Oui, exactement. Donc à bord du navire, il y a 4 sorties en mer qui sont offertes. La toute première qui est à 7h le matin, qui est une sortie de pêche. Donc un animateur ou une animatrice scientifique va encadrer l'activité puis les gens vont apprendre à faire une pêche qui est dite durable. Donc comment manipuler les animaux si on doit les remettre à l'eau ou comment en fait les dépecer, comment ça fonctionne. Pour la deuxième sortie, c'est la sortie de découverte du Saint-Laurent, donc il va y avoir des levées de casiers, soit de buccins communs, de crabes communs ou encore de homards. Puis à nouveau, il y a un animateur ou une animatrice qui en fait l'interprétation. Ensuite, la troisième, c'est une sortie de laboratoire, donc c'est un peu une plongée dans le métier de scientifique marin. Puis c'est un peu de démystifier c'est quoi notre métier, qu'est-ce qu'on fait, tout en s'amusant, là, tout en recueillant diverses données. C'est très intéressant, très concret, je dirais.
En effet. Oui. C'est... Alors, vraiment, là, on en a pour tous les goûts. Vraiment, c'est une activité familiale. Il y a même une excursion contemplative au coucher du soleil sur la mer.
Tout à fait.
Vraiment, là, vous avez pensé à tout.
Oui,
alors, écoutez, vraiment, malheureusement, je pense qu'on pourrait continuer. Je pense qu'il y a d'autres choses encore. Alors, allez sur le site, c'est la meilleure des choses, donc, pour apprécier ce complexe d'activités, c'est le cas de le dire, Exploramer. C'est vraiment un village, là, pratiquement, oui, entre Rimouski et Gaspé, sur le quai de Sainte-Anne-des-Monts. Voilà, ben merci beaucoup d'être venue nous en parler, Aurélie.
Ben merci à vous. Passez une belle journée.
Merci, vous aussi. Au revoir.
No, your mom don't get it, and your dad don't get it, Uncle John don't get it. And you can't tell Grandma, 'cause her heart can't take it, and she might not make it. They say don't dare, don't you even go there, cutting off your long hair, you do as you're told. Till you wake up, go put on your makeup. This is just a phase you're gonna outgrow. There's something wrong in the village, in the village. Oh, they stare in the village, in the village. Oh, there's nothing wrong with you. Feel the rumors follow you from Monday all the way to Friday dinner. You got one day of shelter, then it's Sunday hell to pay, you young lost sinner. Well, I've been there sitting in that same chair, whispering that same prayer half a million times. It's a lie though, burying disciples. One page of the Bible isn't worth a life. There's something wrong in the village, in the village. Oh, they stare in the village, in the village. Oh, there's nothing wrong with you. It's true. Something wrong with the village.
C'était Steven Rebell qui est né à New York en 1989. Il a commencé la musique à 16 ans. Rebell, qui est un artiste donc américain, touchant, en plus d'écrire pour d'autres, réussit pas à pas à mettre son histoire en musique. Artiste engagé, Rebell avait composé en 2017 cette chanson intitulée The Village, suite à la politique régressive du président Donald Trump à l'égard des personnes. Des personnes transgenres, la politique répressive, je dois dire, pas régressive. Mais enfin, alors voilà, c'était Rebell. Maintenant, on va parler avec Jean Paquin, notre chroniqueur environnement, et on a parlé. Bonjour, Jean Paquin.
Bonjour, comment ça va?
Ben, ça va très bien. Alors, bien heureuse de vous retrouver. On sait que dans les dernières semaines, nous avons parlé beaucoup du cycle urbain de l'eau, des manières d'économiser cette ressource, ainsi que de l'état de notre fleuve. Mais qu'en est-il de nos autres cours d'eau? On va en parler. Mais on s'était quitté la semaine dernière justement en se disant, ben, le fleuve, oui, c'est mieux qu'avant, mais il y a place à l'amélioration. Enfin, qu'en est-il réellement, là, Jean Paquin, justement, de la qualité du fleuve, là, si on veut continuer un tout petit peu?
Ben, on a plusieurs enjeux. On utilise en particulier ce qu'on appelle des espèces sentinelles, des espèces en haut de la chaîne alimentaire, comme des bélugas, pour voir si l'écosystème est en santé. Et on voit, par exemple, avec les bélugas, qu'ils ont de la difficulté à se reproduire, même si on a déjà éliminé plusieurs contaminants. Ça nous dit qu'il y a certaines choses à faire avec des substances, par exemple, qu'on utilise à tous les jours, qui affectent le système hormonal. Mm-hmm. On a aussi des enjeux de nutriments, qu'on n'a pas assez d'oxygène dissous dans le lac Saint-Pierre, par exemple, ou dans des eaux profondes, dans l'estuaire ou dans le golfe du Saint-Laurent, qui menacent des espèces comme le flétan, qui risquent de créer des zones mortes.
C'est ça. Donc, on remarque quand même des problèmes qui ne sont pas réglés pour autant, là, même si on a eu quand même des efforts qui ont été faits dans ce sens, mais il y a encore bien d'autres choses qui nous préoccupent là présentement.
Oui, et peut-être pour enchaîner avec les autres cours d'eau, les nutriments comme l'azote et le phosphore, ça constitue un problème pas seulement pour le fleuve, mais aussi pour d'autres cours d'eau qui sont affectés par cette trop grande quantité de nutriments.
Exactement, nos lacs, bien entendu. Alors, qui ne se souvient pas de cette crise des algues bleues, de ces fameuses algues bleues, ces cyanobactéries, ça, vous allez nous en parler justement. Qui est dû, au surplus de phosphore dans l'eau.
Oui, en fait, c'est des micro-organismes qui sont tout à fait normalement présents dans nos écosystèmes. En fait, c'est un peu eux qui sont responsables de la création de la vie sur Terre, avec le fait que ça a libéré de l'oxygène il y a très longtemps. Mais dans certaines conditions, lorsque l'eau est trop chaude, lorsque trop de nutriments, du phosphore en particulier, ça fait une écume en surface de l'eau et il y a des gens qui peuvent être affectés négativement par ça, des animaux aussi.
Oui, d'autant plus que c'est pas très, ça donne pas très envie de se baigner, quand
c'est
on voit ces espèces de petites mousses là, sur les lacs. Oh là là.
Oui, ça fait que le ministère de l'Environnement a émis à l'occasion des avis de non-consommation d'eau ou des avis d'interdiction de baignade lorsqu'il y a eu une quantité importante d'algues bleues sur des plans d'eau.
Oui, c'est ça. Ça affecte même finalement les embarcations à moteur aussi. C'est sûr que les embarcations, ça aide pas à la qualité de l'eau, bien entendu, mais c'est ça. Donc, il y a une espèce de brassage qui se fait. Les embarcations, c'est-à-dire, elles, évidemment, remettent en suspension des sédiments aussi qui sont contaminés par plein de choses.
C'est ça. Lorsqu'il y a des embarcations à moteur qui vont dans des eaux peu profondes, le relargage de sédiments qui contiennent des nutriments peuvent créer des problèmes d'algues bleues. Alors, on sait assez bien comment prévenir ce phénomène-là. Et puis, on doit diminuer la quantité de phosphore qui va dans nos écosystèmes. On doit faire attention avec les embarcations à moteur. On doit aussi être vigilant pour reconnaître où ça se produit et puis le signaler lorsque ça se produit, de façon à ce qu'on intervienne adéquatement.
C'est ça, parce que ça date pas d'hier. Je pense que même les algues bleues, là, c'était connu au Moyen-Âge.
Oui, en fait, au 12e siècle, on a noté qu'il y avait du bétail qui devenait malade lorsqu'il y avait trop d'algues bleues. Et puis, donc, c'est connu depuis longtemps. C'est un peu plus connu au point de vue des humains depuis quelques décennies, pas seulement au Québec, mais un peu partout ailleurs aussi. Ce qui fait que sur les sites web des ministères de l'Environnement, il y a de l'information qui circule pour expliquer qu'est-ce que c'est, comment reconnaître ça et comment prévenir ce phénomène-là.
Exact. Alors, ces enjeux-là, ben, évidemment, qui sont connus, mais bon, il y a eu aussi quand même cette crise-là, particulièrement entre 2007 et en 2010. Là, vraiment, on en parlait beaucoup.
Oui, c'est que le phénomène s'est amplifié à ce moment-là à cause de températures chaudes et puis du fait qu'il y a du phosphore qui n'était pas contrôlé. Et puis, il y a eu aussi une controverse en 2010 parce qu'auparavant, le ministère de l'Environnement publiait la liste des lacs qui étaient affectés. Et puis, là, pendant un bout de temps, en 2010, le gouvernement ne voulait plus donner d'informations. Il y a des journaux qui ont dit que ça n'a pas de bon sens. Les citoyens devraient être informés. Alors, il y a eu une controverse qui a mis ça vraiment en 2010 dans les médias, là.
C'est ça. Alors, bref, les solutions. Il y a eu quand même un bannissement au niveau des phosphates là, dans les savons à vaisselle en 2009 notamment. Alors, on a fait quelques petites choses, là. Racontez-moi.
Oui, en fait, on doit faire attention dans le milieu agricole avec l'utilisation de bandes riveraines qui agissent comme filtre pour empêcher qu'il y ait du phosphore qui se rende dans les cours d'eau en quantité trop importante. Puis oui, le fait que le gouvernement du Québec a banni le phosphate dans le savon à vaisselle, ça a été une bonne action. Et puis, il y a aussi des organisations comme des municipalités, des organismes de bassins versants qui sont devenus davantage actifs pour prendre des choses en main parce que les gens voulaient pas que le tourisme dans leur région cesse en été. Alors, il y a eu davantage de mesures qui ont été prises pour prévenir le phénomène, qui est moins pire maintenant qu'il l'a déjà été.
D'accord. Et puis, toute cette gestion des bandes riveraines, bien sûr. Alors, utiliser, par exemple, des végétaux à croissance rapide, justement, pour, c'est-à-dire qu'il y a une façon de gérer ça, là, pour que, justement, il n'y ait pas de problématique au niveau des bandes riveraines.
Oui, c'est ça. On veut prévenir l'érosion de terres fertiles dans les cours d'eau. On veut prévenir que des pesticides qui aillent dans les cours d'eau. Alors, la zone racinaire de la végétation dans les bandes riveraines qui peuvent être 3 mètres de large, 10 mètres de large selon l'importance du cours d'eau, ben les végétaux vont utiliser les nutriments excédentaires et vont diminuer la quantité de nutriments qui vont dans les cours d'eau et vont améliorer la qualité de l'eau.
C'est ça. Parce que les gens aussi, on avait un problème avec le fait aussi que les gens, en fait, souvent, ils construisaient des murs hein, pour leur terrain, souvent les gens aux abords des lacs. Et puis ça aussi, c'est problématique parce qu'on détruit cette végétation qui est importante, qui fait
Oui, c'est pour ça que les municipalités, de plus en plus, encouragent les riverains à végétaliser les rives. Et puis, ça améliore la qualité d'eau dans lesquelles les gens se baignent. Et souvent, c'est une source d'approvisionnement en eau potable. Alors, je pense qu'en général, les riverains sont bien sensibilisés et pour la plupart, vont aménager leurs berges le mieux possible.
C'est ça. Bon, alors, on est déjà plus sensibilisés, c'est bien. Jean Paquin, la semaine prochaine, on va parler d'un phénomène printanier bien connu aussi, hein, les inondations.
Oui, il y a tout un sujet. Il y aurait moyen d'en parler longtemps.
Sujet.
Ce sera la semaine prochaine.
D'accord, on se retrouve la semaine prochaine. Merci bien et bonne semaine, Jean Paquin. Et à vous tous, chers auditeurs, on se retrouve demain, mardi. Je vous souhaite une excellente journée. Bon après-midi à vous tous et au revoir. Ici Chantal Lavoie. On se retrouve demain entre midi et 13h. Aime l'été!